Bonjour, alors aujourd'hui vendredi, le dernier jour où je vous parle a priori de méditation et plus particulièrement en fait je vais parler d'éthique personnelle et d'écologie, sociale, d'écologie relationnelle, parce que pour moi finalement la méditation au sens large vient donner des éléments clés par rapport à notre manière de vivre, notre manière de nous sentir dans notre vie avec nous-mêmes mais aussi avec les autres. Et je pense vraiment qu'il y a une éthique à respecter derrière et à comprendre. D'ailleurs, finalement, la vie qui nous habite, qui est en chacun de nous, c'est quand même une flamme un peu magique. Hein, j'ai donné ma vision par rapport à ça. Et on y a tous accès. C'est l'instant présent, c'est la détente, c'est cette force de vie qui nous permet notamment de transmuter des énergies qui sont perçues comme négatives, entre guillemets, en positif. Alors je m'explique. Quand je dis des énergies négatives à transformer en positives, en fait, c'est pas vraiment ça. Ça veut dire qu'on va simplement chercher à établir un équilibre. L'être humain, dans sa nature, est issu de cet équilibre entre différentes polarités. Au sens global, c'est un peu le yin et le yang, le principe chinois de l'équilibre d'énergie, donc c'est l'ombre et la lumière qui se rencontrent d'une certaine manière, et quand on y réfléchit bien, en fait, c'est la nature des choses. Toute matière qu'on va mettre en contact avec une autre, si elle est stable, ne va pas créer une nouvelle matière. Par contre, si on prend deux matières instables, deux atomes instables, eh bien on va obtenir une réaction qui va chercher justement à obtenir la stabilité. Et cette stabilité, eh bien elle est à l'origine de tout, elle est à l'origine de la matière, c'est une concentration d'énergie qui permet justement de créer la matière, et ben, cette matière équilibrée, elle fait partie de nous, elle fait partie de notre corps. Et dans notre corps, on a tous un cerveau, et un cerveau qui est en fait une centrale électrique qui fonctionne avec un système nerveux, avec plein de ramifications, qui fait circuler cette énergie dans notre corps et qui donne des signaux pour pouvoir traiter des informations. Alors, c'est très étrange parce que finalement, quand on y réfléchit bien, notre système nerveux, il a un peu le même fonctionnement qu'Internet. Internet, c'est un peu à l'extérieur de nous ce que représente notre système nerveux à notre niveau. C'est un ensemble de systèmes interconnectés qui communiquent à travers un système de fibres, à travers un système de réseau pour envoyer de l'information à une unité centrale. Et cette unité centrale, eh bien, elle va être codée d'une certaine manière pour pouvoir traiter l'information. Alors, de manière inconsciente, évidemment, la manière de traiter l'information va fonctionner en fonction d'un code source, et ce code source, bah, il est dans notre ADN. Notre ADN a permis de générer notre fabrication à partir de pas grand chose finalement, à partir de deux paires de chromosomes, et à partir de là, eh bien tout a été décodé pour pouvoir créer les organes. Et du coup, chaque organe a pu remplir sa fonction à partir de cellules souches, et chaque cellule souche a cette intelligence en elle, finalement c'est ça qui est vraiment magique, pour pouvoir s'adapter à son environnement. Et donc, si on regarde l'infiniment petit et qu'on regarde l'infiniment grand, finalement, c'est exactement la même chose. L'adaptation à l'environnement fait partie des choses naturelles. Et c'est un peu ça la vie, en fait. Et c'est là qu'il y a quelque chose de magique pour moi. C'est que justement, cette vie, on ne sait pas trop d'où elle vient. Elle reste quand même relativement inexplicable. Et elle se transpose dans tous les domaines de notre existence, sous une forme ou sous une autre, qui est une forme d'énergie. Je donne un exemple. Une idée, c'est une énergie qui pend quelque part, enfin qui se balade quelque part, et puis qu'à un moment on capte et qui nous donne justement un éclairage. Qu'est-ce qui permet de capter ça? Eh bien, pour moi, ma croyance, eh bien, c'est que notre cerveau, en fait, finalement, est une machine qui permet justement de capter ces signaux. Et pour moi, on peut créer des nouvelles idées, il suffit de prendre deux idées et puis de les rassembler et d'obtenir finalement un nouveau résultat. On peut créer des nouvelles choses à partir du moment où on assemble des matériaux et on obtient quelque chose de neuf. Par exemple, fabriquer un meuble, ça va être une nécessité différents matériaux, construire une maison et plein de choses comme ça. Et donc tout part finalement d'un concept, une pensée, et puis à partir de la pensée, eh bien une intégration, une compréhension des choses et une production. Et c'est ça pour moi la créativité. Et quand on y songe, en fait, ça se passe juste dans l'instant présent. Ça se passe aussi dans une projection dans le futur, mais tout se produit dans l'instant. C'est-à-dire que finalement, quand les choses prennent forme, la réaction qui a lieu dans l'instant produit quelque chose qui va permettre d'obtenir quelque chose de neuf. Et ce quelque chose de neuf va permettre de reproduire à nouveau lui-même quelque chose de neuf. C'est le principe de l'évolution, c'est le principe de l'équilibre qui va générer un déséquilibre, qui va se rééquilibrer. C'est une courbe sans fin. Et c'est là qu'en fait, le changement, pour moi, fait vraiment partie de la vie, parce qu'en fait, c'est une évolution permanente. Et c'est une évolution dont on va choisir la direction, en fait. Et là, on a vraiment un choix, et la méditation fait partie de ces choix. C'est d'être en lien avec l'instant présent, d'être en lien avec notre créativité, d'être en lien avec notre nature, et notre nature, eh bien, c'est une usine à changer. changement. L'être humain est une usine à changement, est une usine à perception qui vont permettre de générer du changement. Et le gros souci de l'être humain, en fait, c'est de pas pouvoir comprendre, je pense. Et en tout cas, moi, ça a été vraiment mon travail. Et j'explique ça comme ça parce que ça me paraît beaucoup plus accessible, mais chacun voit les choses comme il veut. Les exemples sont peut-être pas suffisamment parlants pour certains, mais bon voilà, c'est ce qui me vient pour l'instant. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est une usine à changement et que ce qui coince parfois dans cette usine à changement, eh bien, c'est un élément ou deux ou trois ou quatre qui sont finalement bloqués et qui empêchent le moteur de tourner. D'ailleurs, la vocation d'un moteur, une fois qu'il est fabriqué, ben c'est bien de faire avancer quelque chose. Et ben on a la même chose en nous. Seulement quand il y a des choses qui sont bloquées, eh bien, il va falloir aller les réparer. Ces réparations, ben c'est quoi? C'est nos blessures, c'est les chocs émotionnels, c'est nos croyances qui nous empêche d'avancer. Et donc ça va nous ralentir, nous alourdir, mais plus on va aller dans cet alourdissement, dans ce ralentissement, et plus la pulsion de vie qui est en nous va aller dans le sens contraire et nous faire réagir. C'est ce qui crée des tensions, c'est ce qui crée du désir, c'est ce qui crée de l'envie, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui crée des émotions. Et les émotions en soi sont porteuses d'une énergie directrice quelque part, ce sont des flèches indicatrices sur la route qui nous indiquent le chemin à suivre. Et bah justement, si on tient compte de nos émotions, c'est un peu comme les lampes d'un tableau de bord, à un moment bah, tout va bien, ou alors, ben, à un moment, il y a un témoin rouge, il y a un témoin bleu, il y a un témoin vert, et ça va signifier quelque chose, et ça va nous indiquer quoi. Et donc, c'est là l'importance d'être en connexion avec notre ressenti. Et le ressenti, pour moi, eh bien, il est accessible par la méditation. La méditation, c'est la connexion, je l'ai déjà dit, à l'instant présent. C'est le fait d'être dans l'instant présent et d'être en lien avec ce ressenti. Et ce ressenti va nous permettre de savoir où nous en sommes. C'est un peu le regard qu'on porte sur le tableau de bord. C'est exactement ça. Et c'est ça l'intérêt pour moi de méditer. C'est ça l'intérêt d'être en lien permanent avec soi. Et pour pouvoir être en lien permanent avec soi, eh bien, il va falloir se nettoyer. Il va falloir nettoyer tous les cacas qu'on a dans la tête. Il va falloir nettoyer toutes les situations difficiles et conflictuelles qu'on a autour de nous, qu'on a générées ou pas. Il va falloir prendre la responsabilité, en fait, de ce qui nous a été transmis notamment. Et cette transmission, eh bien, elle est dans le code source, elle est transmise par toutes les choses, par toutes les générations qui nous ont précédés, qui nous ont permis de réaliser un code source qui n'est malheureusement pas celui qui va nous permettre de nous exploiter, de nous exprimer au maximum de notre potentiel. Pourquoi ? Bah, simplement parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été résolues. Et donc, il y a des croyances qui ont généré des situations, et bah, ces situations sont engrammées, sont bloquées quelque part dans un code source. Et c'est un peu le principe de la matrice, finalement, quand on y réfléchis bien, pour moi c'est un peu ça, c'est que finalement en fait on est coincé dans une matrice simplement parce qu'on n'a pas pris conscience de la force qui est en nous, qui nous permet justement de recoder les choses et de revoir le code source en fait simplement, et de décider la partie qu'on a vraiment envie de rejouer qui va nous faire du bien, celle qui est porteuse de nos valeurs, celle qui nous fait vraiment vibrer. Et cette vibration, c'est une source d'énergie qui va permettre justement de remettre le moteur en marche et de l'accélérer progressivement et de l'alimenter en énergie. Et cette énergie-là, pour moi, on la trouve à partir du moment où on a retrouvé la connexion à sa source. Et cette source d'énergie, cette source de joie, cette source de bien-être, on ne peut l'atteindre que dans l'instant présent, dans l'acceptation des choses. Et cette acceptation des choses, c'est l'acceptation de la nature même de la vie. Et pour moi, la nature de la vie, eh bien, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est une transformation permanente, c'est une évolution permanente. Là où on a un choix, c'est d'aller vers la dégradation ou d'aller vers l'intégration. La dégradation, eh bien, simplement, on sait très bien, ça nous tire vers le bas. Et l'intégration, eh bien justement, c'est construire quelque chose avec différents éléments et un peu comme des blocs de Lego, eh bien obtenir un résultat qui va nous convenir et qu'on va pouvoir transformer au fil du temps en fonction de nos besoins. Et nos besoins vont s'exprimer à travers nos désirs. Donc c'est vraiment là qu'il est important de se connecter à soi-même. Et pour pouvoir être connecté 100% à soi-même, eh bien la méditation, l'instant présent, sont les seuls moyens que j'ai trouvé pour ma part, en tout cas, d'y parvenir. Après, il y a différents outils qui expliquent tout ça. C'est les outils que j'utilise notamment en coaching, qui vont permettre notamment donner du sens aux événements, de les interpréter, de leur donner un sens qui nous convient et qui vient nourrir finalement notre énergie, qui vient nourrir notre moteur. Si ça vient contre nous, c'est pas parce que c'est dirigé contre nous, ça n'a rien de personnel, c'est simplement une situation qui représente en soi une énergie et que cette énergie en fait vient contre nous pour s'équilibrer. Et donc notre rôle à nous, notre responsabilité face à la vie, face à ces événements, eh bien c'est d'équilibrer les choses. Il ne nous arrive que des choses qu'on est capable de gérer. Il faut partir de ce principe-là, c'est qu'on ne peut rencontrer que des situations qu'on est capable de gérer, qui vont nous permettre de construire quelque chose de neuf. Alors évidemment, pour certaines personnes, ça va être « oui, mais ça je l'ai pas choisi, ça je l'ai pas... » C'est vrai, on n'a pas choisi. Ça, malheureusement, on n'a pas le choix, en fait. À ce niveau-là, on ne choisit pas les éléments extérieurs. Par contre, curieusement, en fonction de notre état d'esprit, eh bien, les situations vont être plus ou moins difficiles à vivre. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on fait un job qu'on aime, on ne sent pas du tout en fait qu'on est en train de travailler. On n'a pas le sentiment de souffrance que symbolise le mot travail avec cet instrument de torture. Alors que quelqu'un qui fait un job qu'il n'aime pas, pour lequel il n'est pas fait, pour lequel il se force, eh bien, perd son énergie. Eh bien, simplement ça montre que derrière, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne vient pas alimenter le moteur, qui ne nous permet pas justement de créer, de transformer les choses. Et de trouver un équilibre en nous et de le générer autour de nous. Et finalement, quand on y réfléchit bien, c'est là qu'il y a des débordements. Ce qui fait que la plupart du temps, il y a des tensions dans les relations, ce qui fait qu'il y a des extrémismes, ce qui fait que certaines personnes finalement finissent par se taper dessus ou pas se comprendre, eh bien simplement, c'est parce que il y a une forme d'intolérance au changement, il y a une forme d'intolérance à l'autre, il y a une forme d'intolérance à la différence. Alors qu'en réalité, quand on annihile cette intolérance, eh bien on est dans l'acceptation. On est dans l'acceptation pure, et cette acceptation, finalement, c'est celle qui nous travaille, c'est ça qui nous façonne. C'est finalement, toutes les choses qu'on n'a pas acceptées, on n'a pas pu les changer. À partir du moment où on a pu accepter les situations, eh bien on a pu obtenir un nouvel éclairage sur la situation et trouver une manière de passer outre. Alors c'est pas passer outre en faisant comme si ça n'existait pas, parce que ça marche pas, c'est passer outre en trouvant une autre manière de faire. Et cette autre manière de faire, soudainement, s'avère être la bonne, et donc à partir de là, eh bien on peut avancer vers un certain succès, vers une certaine réussite par rapport à nos entreprises, par rapport à nos projets. Et donc ça part vraiment d'une intention personnelle en fait. Est-ce qu'on décide de nourrir ce moteur le plus positivement possible, et du coup il y a de moins en moins d'énergie nécessaire pour pouvoir le faire tourner, et donc ça demande de l'énergie au démarrage, bien sûr, surtout quand on n'a pas encore démarré. Ou alors, au contraire, est-ce qu'on les laisse se ralentir, alors qu'on sait très bien qu'à l'intérieur, il y a une pression énorme qui est en train de gonfler, et qu'à un moment, cette pression, elle va devoir s'exprimer. Et alors, comment elle va s'exprimer? Si on maîtrise le flux d'énergie, eh bien, on va pouvoir avancer. Par contre, si on le retient, à un moment, ça va se déclarer sous forme de conflits relationnels, de problèmes de santé, de tensions internes qui vont générer, finalement, la dégradation de certaines fonctions, certains organes, etc., etc. etc. Alors, tout ça, finalement, ça paraît assez simpliste, et pourtant, c'est ça, en fait. La vie, pour moi, est extrêmement simple, et la méditation permet, par sa simplicité, justement, d'être en connexion permanente avec soi, avec cette énergie vitale qui est en nous, dont on a finalement une responsabilité. C'est notre responsabilité c'est notre responsabilité en fait de célébrer la vie qui est en nous. On n'est pas en survie. La survie, c'est vraiment la base de la base. Moi, je vois des gens qui sont en train de travailler comme des fous juste pour ramasser de l'argent. Quand on leur demande pourquoi ils font les choses, pour gagner leur vie. Non, la vie, on l'a déjà gagnée. On fait partie des 7 milliards d'êtres humains sur Terre qui ont gagné la course du spermatozoïde le plus rapide dans un utérus. Je suis désolé de le dire comme ça. Ça paraît peut-être pas très très sexy, très joli, mais en même temps, c'est la réalité et c'est vraiment un univers très complexe pour un spermatozoïde. On est tous passer par là, on s'en souvient pas, heureusement, je pense que c'est pas possible, mais on peut concevoir que le contexte représente des kilomètres à parcourir et des embûches dans tous les sens, et pourtant, il y a bien un gagnant qui est arrivé, c'est chacun de nous. Et chacun de nous a appris à marcher, chacun de nous a appris à mettre un pas devant l'autre, alors qu'au début, il rampait. Comment c'est possible d'apprendre et de chuter 2500 fois en moyenne, et finalement de se retrouver à marcher sans plus jamais se poser la question? C'est simplement possible en se dépassant et en voyant que c'est possible. Et ce champ des possibles, il était évidemment visible, accessible à nos yeux en tant qu'enfant, d'autant plus qu'on était encouragé. Mais ce qui se passe en fait, c'est qu'à un moment il faut pouvoir faire sans les autres, il faut pouvoir s'encourager tout seul, il faut pouvoir prendre confiance dans cette énergie qui est en nous, dans ce qui nous habite, dans cette personnalité, dans ce qui nous construit, notre identité profonde, et prendre conscience qu'en fait cette force, elle est là, elle est accessible, et il faut aller la chercher. Et donc ça ne peut fonctionner que en étant dans un état de réceptivité à notre ressenti. C'est pas notre tête qui va faire le travail. Notre tête, c'est juste un système qui va permettre de gérer les idées, qui va permettre de gérer nos pensées et qui va permettre notamment de structurer les éléments qu'on va rassembler pour pouvoir obtenir un résultat. Mais notre créativité, elle passe dans un autre processus. Elle passe aussi dans un processus de ressenti qui nous indique sur le plan émotionnel la direction à suivre pour pouvoir faire des choses qui nous font du bien. Et se faire du bien, c'est un choix. Faire du bien à soi-même pour pouvoir faire du bien aux autres. Et pas faire du bien aux autres en espérant qu'ils prennent soin de nous. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'on a vécu quand on était enfant n'a plus rien à voir avec ce qu'on vit quand on est adulte. C'est une autre responsabilité. La responsabilité d'un enfant, c'est de grandir et de préférence de faire au mieux par rapport à ce qu'on lui donne. Et on nourrit évidemment plein d'espoir. On est nourri d'espoir quand on est enfant. Par contre, on nous a tellement donné qu'à un moment, sans s'en rendre compte, On recherche ça en permanence dans nos vies. Et moi, je vois beaucoup de gens qui s'appuient sur les autres, qui donnent en espérant recevoir en retour. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit donner sans attente en retour. Donner parce que ça nous fait du bien. Donner parce que c'est ce qui nous énergise. On donne le meilleur de nous parce que c'est passé par nous. Il y a eu une transformation. Il y a eu un éclairage intérieur. Il y a toute notre personnalité qui a pu s'exprimer. Et quand on est dans ce rayonnement-là, eh bien, c'est effectivement le rayon de soleil qui apparaît après des jours de pluie et de nuages. Bah, tout le monde se tourne parce que effectivement, on dégage cette énergie positive qui donne envie, qui inspire, qui montre à chacun que la vie est là, et bah cette vie, elle est en chacun nous, et donc c'est ça qui résonne en nous, c'est ça être inspirant finalement. Inspirer le monde, ce n'est que ça, entre guillemets, même si en soi c'est juste exceptionnel, et on a tous cette capacité-là, c'est un puissant pouvoir qu'on a, qui nous a été donné, et qui va nous amener en fait progressivement à comprendre, à intégrer que effectivement on est différents les uns des autres, parce qu'on a des intentions différentes, parce qu'on a des rôles différents, parce qu'on a une place à prendre qui est différente dans la vie. Il y a des gens qui sont faits pour être vus, il y a des gens qui sont faits pour exploiter une entreprise et montrer une certaine force, un certain pouvoir. Il y a des gens qui vont peut-être travailler plus en second plan, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas plus de valeur que n'importe quel autre être humain. On a de la valeur, chacun de nous a de la valeur, soit en premier et les autres aussi. Et à partir du moment où on pointe les autres à les juger, etc., et bien c'est parce qu'on a des cacas dans la tête. C'est parce qu'il y a des cacas dans notre vie qu'il faut les nettoyer. À un moment, il faut comprendre qu'il y a des choses dont on doit se débarrasser. Et se débarrasser de quoi ? C'est de se débarrasser de toutes ces croyances qui nous limitent, de toutes ces choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous ralentissent. C'est un peu la couille dans le pâté. C'est le truc inattendu, bah, il faut le régler, on ne peut pas faire autrement. Alors, si on peut faire autrement, on peut choisir de ne pas le faire. Le problème, c'est que ça retourne tôt ou tard contre nous, parce que soit on est en croissance, soit on est en décroissance. Et la stagnation, c'est quoi ? C'est jamais que finalement un microscopique mouvement de « je décrois, je crois, je décrois, je crois ». Ça, c'est une forme de stabilité. C'est un équilibre. Et cet équilibre, il est fragile et il faut pouvoir le maintenir. Et pour pouvoir le maintenir, eh bien, il va falloir explorer la courbe du changement en permanence et le plus rapidement possible. Et plus on explore la courbe du changement le plus rapidement possible, plus on augmente en termes de vibration. Et cette vibration, elle va justement nous permettre d'atteindre un certain niveau. Et ce niveau, en fait, c'est notre choix. C'est nous qui choisissons à quel niveau on veut s'élever. C'est nous qui choisissons à quel niveau on a envie de se positionner par rapport à la vie et par rapport à l'humanité. Et donc, bah, c'est nous qui choisissons avant tout la vie qu'on mène et bah, comment on la vit. Qu'est-ce qu'on a envie de prendre avec nous, en fait, sur le chemin ? Qu'est-ce qu'on a envie de porter et qu'est-ce qu'on n'a pas envie de porter ? Moi, je vois beaucoup de gens qui portent leur boulet pendant toute leur vie et puis qui font des enfants, qui font une famille, et comme tout le monde, hein. C'est louable comme espoir de tout donner aux enfants, mais qui s'oublie en fait, comme s'ils n'avaient pas droit. On a droit d'exister, et exister ça veut dire prendre sa place. Prendre sa place même si ça a été compliqué, même si on a tenté et que ça n'a pas marché plusieurs fois. On apprend tous à marcher. Et apprendre à marcher, ça implique de tomber 2500 fois. Ça implique la fameuse théorie des 10 000 heures pour obtenir une compétence inconsciente. Marcher, aujourd'hui, on le fait tous sans se poser de questions. C'est la même chose. La vie, c'est exactement la même chose. C'est aussi simple que ça. Et parce que c'est simple, c'est difficile à entendre. Parce que c'est simple, la plupart des gens se disent que c'est trop simple que pour pouvoir être vrai. Et parce que c'est simple, en fait, on veut même pas essayer. Alors qu'en réalité, ça n'est que ça. On peut chercher toute sa vie. On peut lire tous les bouquins du monde. On peut faire tous les stages de développement personnel. On peut méditer sur une montagne avec les moines bouddhistes. Ça ne changera rien, la simplicité, elle est là. Contempler les choses, les critiquer, les juger, ça n'apportera rien si on n'a pas décidé de prendre la pleine responsabilité de la vie qui est en nous. Et cette vie-là, en fait, c'est un cadeau qui nous a été offert, c'est un cadeau dont on a la responsabilité, et c'est un cadeau dont on va pouvoir faire au monde. Et donc, habiter pleinement notre vie, habiter pleinement notre corps, habiter pleinement notre énergie, notre conscience, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire pour être bien avec soi, et à partir de là, partager ce bonheur avec les autres. Et pour moi, ça, c'est la clé. Et j'ai envie de clôturer avec ça le sujet de la méditation, parce que finalement, la méditation, ça n'est que ça. Ce n'est que l'instant présent, et c'est pas mettre ses doigts dans je ne sais quelle position, ce n'est pas se mettre en lotus, c'est juste être en connexion avec soi en permanence. Et on peut être dans un état méditatif en permanence, avec différents niveaux d'énergie. Par exemple, ici, je suis dans un flux, je suis en train de vous parler, j'ai pas préparé mes notes, je suis en train de vous parler, je suis dans un flux d'énergie, de pensée, où je suis presque emporté par ma parole. J'ai presque envie de sortir de ces speakers et d'aller dans vos oreilles, vous les caresser, vous rassurer, vous montrer que oui, il y a moyen de changer, il y a moyen de faire de ce qu'on est, ce qu'on a été, c'est ce qu'on a été. On peut changer, on peut évoluer. Moi, pendant des années, j'ai cru qu'on pouvait pas changer, qu'une personne était figée dans un comportement, une attitude, etc. Oui, c'est le cas à partir du moment où quelqu'un se victimise. À partir du moment où on se victimise, on se prend dans le rôle de la victime qui souffre et qui, finalement fonctionne comme un caméléon. C'est vraiment trop injuste, pourquoi moi ? À partir du moment où on prend la responsabilité de ce qui nous arrive, eh bien, on se rend compte en fait qu'on a effectivement des possibilités d'action et qu'on peut obtenir de l'impact, qu'on peut obtenir des résultats. Et ça, ça demande un alignement sur nos valeurs, ça demande une connaissance de soi. Et à partir du moment où on est là, eh bien, on va pouvoir faire des choix qui vont progressivement, et je dis bien progressivement, parce qu'on est trop pressé dans ce monde. La technologie nous a invités à accélérer, à nous donner l'illusion que les choses vont vite, mais nous, on va pas aussi vite. On a besoin de ralentir, on a besoin d'être dans l'instant. Et la technologie nous pousse en fait à être dans une relation temps complètement différente de celle de nos arrière-grands-parents, par exemple. Même nos parents, quand on y réfléchit, il y a chaque fois un switch de génération en génération. La vibration des choses est de plus en plus importante. Et pourtant, il y a un basique, c'est que notre corps, il fonctionne à un certain nombre de hertz au départ. Et à partir de là, eh bien, il s'agit de se recentrer sur cette fréquence avant de vibrer plus haut. Si on n'est pas bien dans nos bases, si on n'est pas bien à la maison, entre guillemets, c'est-à-dire notre corps, en nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut être bien autour? C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut générer des relations constructives, enrichissantes? C'est difficile. Même s'il y a des relations qui vont peut-être nous illuminer, c'est quoi? C'est simplement des personnes qui sont à un autre niveau de vibration de nous et qui nous inspirent, qui nous donnent envie de nous élever. Par contre, quand on rencontre des personnes qui sont dans une vibration égale ou inférieure à nous, ben, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont des miroirs. Ce sont des miroirs de ce qui nous attend, des miroirs de ce qu'on n'a pas nécessairement envie de voir et du coup, qui génèrent, des situations difficiles. Alors moi, j'ai fait tout un chemin par rapport à ça. J'en ai déjà brièvement parlé. On n'est pas toujours au meilleur de soi. On a tous une personnalité, cette personnalité, elle est désintégrée ou intégrée et on choisit la direction dans laquelle on veut aller. Alors aujourd'hui, c'est la veille de mon 42e anniversaire, c'est la période, il paraît que les multiples de 7, en fait, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, c'est ce qu'on m'a dit, sont des années de gros changements. Je prends ça comme un signe et je me dis, gros changement, je vais assumer complètement le type de coach que je suis, le type de consultant que je suis et ramener les choses à l'essentiel, et l'essentiel, c'est être en vie. C'est être en vie, c'est-à-dire être animé par son désir profond et pas envier les autres. C'est être animé par son désir profond et à partir de ce moment-là, apporter de la valeur à partir de qui on est et à partir de ce qui nous habite, de ce qui est vraiment important pour nous. Et si c'est vraiment important pour nous, il y aura toujours un public, il y aura toujours des clients, il y aura toujours quelqu'un qui sera intéressé par notre rencontre, par notre partage, par notre échange, par notre expérience, etc. Et on est là pour ça, on est là pour s'entraider, on est là pour s'élever les uns avec les autres et pas tout seul dans son coin, chacun dans son truc, à faire sa petite maison, à faire son petit univers de sécurité, à remplir son frigo, à faire son job pour gagner sa vie, puis se sécuriser dans un bunker avec des caméras tout autour pour pas être volé. C'est pas ça le but. La vie, c'est pas du tout ça. Mais moi, ce que j'ai découvert, en fait, c'est que j'ai passé quand même une partie de ma vie à essayer de la gagner, justement, et à bien la gagner. Parfois, j'ai eu des beaux contrats, j'ai eu des belles situations, des belles relations et des succès. Et puis, au final, en fait, je me suis rendu compte que je travaillais avec des gens qui manquaient de valeur, qui manquaient de sens, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais comme eux. Et, finalement, ça générait quoi? Ça générait des projets qu'on me proposait avec à la clé des rémunération intéressante, valorisante, etc. Mais intérieurement, une dévalorisation de ce que je suis vraiment, parce que fondamentalement, en fait, les valeurs n'étaient pas respectées. Faire les choses pour de l'argent, au lieu d'aider l'autre, réellement, sincèrement, profondément, partir de là, pour moi, ça n'est pas juste. Et je n'ai rencontré dans toute ma carrière quasiment que ça. Et ça, pour moi, ça doit changer. Si on veut voir des changements dans le monde, il faut arrêter de le pointer du doigt. Il s'agit de se regarder à l'intérieur. Notre responsabilité, elle est là. Elle est là. Elle est dans cette vie qu'on habite avec notre sentiment de besoin, notre survie, nos désirs, finalement, nos 7 péchés capitaux. Et alors qu'en réalité, la vie, c'est tout à fait autre chose. Et ça, je pense qu'il s'agit de se remettre en question, de se regarder en face dans un miroir et même mettre sa tête dans un sac si on peut pas regarder ça, mais en tout cas, aller voir à l'intérieur. Et la méditation, ça permet de faire ça. Et ça permet d'être juste, d'être écologique quelque part par rapport à qui nous sommes et de faire le grand nettoyage. Alors, ça demande du temps pour certaines personnes parce qu'effectivement, ça implique de libérer certaines pensées, de les regarder passer comme une vache regarde passer le train. Ça veut pas dire qu'on peut pas penser, mais ça veut dire qu'on a mis une attention, c'est une attention d'élévation. Et ce qui est intéressant, c'est que là, à ce niveau-là, on est tous égaux. Quel que soit le niveau où on se trouve, on est tous égaux. On peut tous repartir, on peut tous nettoyer tout ça. Et donc, je pense qu'on peut le faire. Et c'est ça, en fait, mon objectif aujourd'hui et cette semaine, finalement, c'était de vous partager cette vision du monde, qui est peut-être un peu folle pour certains. Je suis peut-être complètement allumé, j'ai peut-être l'air perché là-haut à regarder les choses de loin. Peu importe, moi, je vous invite à venir voir les choses sous cet angle-là. Ça vous branche, ça vous tente, je vous propose d'essayer, d'être pragmatique, et puis vous voyez ce que ça donne dans vos vies. Si c'est pas juste, si ça correspond pas à vos valeurs, à votre vision, c'est pas grave. C'est pas pour autant qu'on va se cracher dessus. Mais pour autant, je pense que les relations... Aujourd'hui, en fait, les relations humaines méritent d'être enrichies par des valeurs et non pas par des relations de pouvoir et d'argent. Et je pense que si on va dans ce sens-là, les choses vont enfin pouvoir changer. On va pouvoir enfin obtenir un nouveau monde, celui qu'on attend, où on n'est plus drivé finalement par une économie qui nous plombe, par des médias qui nous tirent vers le bas avec des mauvaises nouvelles dans tous les sens. prenons la vie avec le sourire, prenons la vie avec une certaine légèreté, tout en prenant notre responsabilité. Légèreté ne veut pas dire qu'on ne prend pas ses responsabilités. D'accord? Voilà, c'est ma simple proposition. C'est pour mon dernier jour de mes 41 ans. J'entre dans ma 42e année l'année prochaine. Enfin, demain, exactement. Je suis né un 7 octobre. Et puis, ben voilà, je vous retrouve lundi avec cette énergie renouvelée. Puis, je vous expliquerai aussi comment intégrer votre projet dans le cadre d'un financement d'1 million d'euros. Rien que ça. Qui permet notamment de participer à un concours. Enfin, je vous donnerai tous les détails. C'est un truc de fou. Ça a lieu depuis 4 ans, je crois. 3 ou 4 ans. À la base, c'est une boisson qui organise ça. C'est une boîte américaine qui propose ça à l'échelle du monde et qui vise justement à nourrir les projets qui ont justement des valeurs, qui ont pour vocation en fait d'aider le monde, en fait, de contribuer au monde d'une manière ou d'une autre. Et dès qu'il y a une valeur humaniste là derrière, eh bien il y a la possibilité de décrocher entre 10 000 et 1 million d'euros ou 1 million de dollars. Enfin bref, au final ça reste quand même des sommes assez importantes et on ne dit pas non. Pour autant, qu'on sache exprimer son projet et qu'on puisse l'habiter sincèrement. Si on le fait pour l'argent, c'est pas le but. Par contre, pour tous ceux qui croient qu'avoir les moyens c'est la clé pour pouvoir démarrer, eh bien détrompez-vous, il y a toujours des gens qui sont prêts à investir. Ça, c'est un fonds d'investissement dont je vous parle, et ce fonds d'investissement va donner de la valeur aux projets qui tiennent la route, c'est-à-dire les projets qui sont vraiment incarnés. Et pour ma part, en fait, Humanité 2.0 va être présenté. Je ne sais pas si ce sera validé au concours, je ne sais pas du tout si je vais finir finaliste et représentant de ce projet ou pas, mais en tout cas, ça vaut la peine d'essayer, ça permet toujours de se mettre dans un schéma de réflexion, et en tout cas, de voir concrètement quelles sont les questions qui sont posées par rapport à ça et de voir en fait ce qui intéresse finalement les personnes qui veulent injecter leur argent dans des projets humanistes. Et là c'est intéressant justement de voir dans quelle mesure on va réellement incarner ces valeurs, ses propres valeurs, parce que c'est qu'à partir de là en fait qu'on va obtenir de l'aide. Alors évidemment mon souhait c'est de vous le partager et en même temps je vais vous donner tous les tuyaux qui permettent notamment d'avancer par rapport à un projet qui est 1 million d'euros à la clé ou pas, parce que au final de toute façon si votre projet vous tient à cœur, il avancera tôt ou tard, il avancera et l'argent sera jamais un problème. L'abondance sera là. Ce sera peut-être pas sous forme d'argent, mais ce sera encore mieux. Mais bref, on en reparle. Je vous retrouve lundi dans un prochain podcast. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.